les gens qui se battaient pour être au premier rang. C'était pas pendant le culte, c'était pour la Coupe du Monde. Mais je crois que tout le monde a été content du résultat, peut-être sauf nos amis allemands. Mais quelque part, il y a quelque chose qui fait du bien à tous. C'est quand on voit quelqu'un qui passe de la défaite à la victoire. Le journal L'Équipe avait un article qui s'intitulait « Ronaldo, du cauchemar de Saint-Denis à l'apothéose de Yokohama ». Nightmare. The apotheosis, the success, the grand Yokohama. Yokohama.
Yokohama, where the game was played.
Et vous vous souvenez, c'est vrai qu'en la dernière Coupe du Monde, Ronaldo avait joué en finale, mais il n'était que l'ombre de lui-même. Ça m'a pas trop gêné à l'époque. Ça a permis à l'équipe de France de gagner cette coupe. Mais c'est vrai qu'il avait eu un malaise le matin. On parlait d'une crise peut-être d'épilepsie. Et quand on imagine ce que ça a dû être pour lui d'avoir à lutter contre le découragement, lui qu'on avait déjà comparé au fameux Pelé, maintenant il était traité de vieille gloire finie. On l'a accusé d'avoir joué malgré sa faiblesse pour l'argent. Et puis après, ça a été des graves blessures physiques, les ruptures des ligaments des genoux. La quasi-certitude qu'il était vraiment fini pour le foot. Puis les opérations à répétition. Le chemin parcouru de la table d'opération en séance chez le kiné. Il y en a qui ont dû faire des séances de kiné dans leur vie. Pas de honte. C'est long. On ne voit pas de progrès. Après, ça a été la salle de musculation. Puis finalement, il est revenu en forme et c'est lui qui a fait gagner son équipe. Et on est toujours encouragé dans nos vies par la transformation des défaites en victoires. Ce que j'aime bien chez Ronaldo, c'est sa foi en Dieu. La première chose qu'il a déclarée, c'est que je commence à réaliser à ce qui m'arrive et la première chose que je veux faire, c'est remercier Dieu. Et je crois que c'est un peu le secret de ce retour, c'est qu'il a cette foi en Dieu qu'il aime. Et sans poursuivre trop l'analogie avec le foot, nous allons voir aujourd'hui comment Dieu transforme les défaites en victoires.
We'll look at today how the Lord transforms victory out of defeat.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience de la défaite dans votre vie? Les autres ne veulent pas l'admettre, probablement. Mais c'est vrai que on a besoin d'être encouragé. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques leçons dans notre étude du chapitre 8 de Josué. Vous vous souvenez du début de cette campagne en terre promise par Josué et ses hommes. Nous avons vu que lorsqu'ils faisaient confiance à Dieu, ils étaient dans la victoire. C'était la fameuse bataille de Jéricho. Qui a été remporté de la façon stratégique la plus absurde à vue humaine. Mais parce que c'était le Seigneur qui remportait cette victoire. Nous avons vu que, comme c'était la première victoire, ils devaient tout consacrer à Dieu, c'est-à-dire ne rien garder pour eux de cette victoire de Jéricho. Mais nous avons appris en lisant le texte qu'il y avait une personne qui s'était dit ce serait trop bête de laisser passer tout cet or qui est à ma portée, qui avait volé de l'or en violation directe de la parole de Dieu. Et nous avons vu au chapitre 7 la défaite à la bataille de Haï, cette petite ville. Le problème, vous voyez, c'est que leur victoire à Jéricho, ça les a remplis de confiance en eux-mêmes. Et puis il s'était dit, en fait, c'est une petite ville, on n'a pas besoin d'envoyer toutes les troupes, allons-y. Il n'avait même pas prié. Et là, c'est la défaite. 36 personnes sont tuées. Josué qui ne comprend plus. Qui revient à Dieu, finalement. Et Dieu qui lui dit qu'il y a un problème dans le camp, il y a le péché. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu va redonner la victoire à Josué. Nous allons voir qu'il est plus difficile de regagner du terrain que d'en perdre. Et ça, bien sûr, il y a une application directe dans notre vie spirituelle. Il est plus facile de continuer à prier, à lire la parole de Dieu tous les jours. Que d'arrêter pendant 6 mois et d'essayer de recommencer. Bien sûr, ce n'est pas votre cas. Je sais que vous la lisez tous les jours 2 fois. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous fassions tous, au moins. Mais nous allons voir qu'il avait fallu juste quelques lignes pour décrire la défaite. La défaite était expliquée en quelques lignes. Le plan pour reconquérir le terrain va être plus complexe. La Bible est pleine d'histoires d'hommes et de femmes qui ont laissé tomber le Seigneur, ou plutôt qui se sont éloignés de lui. Si on pense par exemple à l'apôtre Judas, c'est drôle de l'appeler apôtre, on n'a pas l'habitude de l'appeler apôtre, hein, Judas. Mais c'était un apôtre. Et puis il y avait l'apôtre Pierre, lui on n'a pas de mal à l'appeler l'apôtre. Mais Judas, nous savons, a trahi le Seigneur. Pierre l'a renié 3 fois. Et on peut dire qu'ils ont tous les deux échoué de façon lamentable. Mais la grande différence est la façon dont ils ont réagi à la situation. Judas, lui, a eu pitié de lui-même en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis il allait se suicider. Pierre, lui, s'est repenti. Il a pleuré des larmes amères. Il a pu prendre un nouveau départ. Et donc, encore une fois, nous allons voir que nos défaites ne doivent pas rester des défaites. La question, c'est de savoir comment se relever après un chaos. Lisons ensemble à partir du verset 8, du chapitre 8, verset 1, pardon. L'Éternel dit à Josué, sois sans crainte, ne t'épouvante pas, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï, j'ai livré en ta main le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays, tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho son roi, mais alors vous prendrez pour vous comme butin ses dépouilles et son bétail, quant à toi, tends une embuscade à la ville par derrière. On peut imaginer l'inquiétude de Josué. Tout avait bien commencé. Et d'un seul coup, cette défaite terrible. Il se demande si le Seigneur va l'abandonner. Ou s'il va être remplacé par un autre général à la tête d'Israël. Mais Dieu renouvelle ses promesses. Et les promesses qui sont dans la Bible, Dieu est fidèle. Si nous revenons à lui, il renouvelle ses promesses. Il ne dit pas, ah non, là, ça, tu as dépassé les bornes, tu es sur la touche pour toujours. Si vous vous souvenez, au début du livre de Josué, nous avions vu les mêmes promesses pratiquement. Chapitre 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. » Même chapitre, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras.
And again in chapter 1 verse 9 the Lord says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Seigneur Jésus, ces dernières paroles dans l'évangile de Matthieu, c'est « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si nous écartons des promesses, c'est notre faute. Nous sommes tombés dans le péché, mais le Seigneur a toujours les mêmes promesses pour nous si nous revenons à lui. Et là, le peuple s'était repenti. Vous vous souvenez que Achan avait payé pour son péché. Et donc, le peuple était purifié. Et la promesse tenait toujours.
So the people were cleansed and the promise held to, as before.
J'aime bien l'expression ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas.
Pierre loves the expression do not fear or be dismayed.
Comme nous avons vite fait de nous épouvanter.
We are so quickly dismayed.
C'était vendredi soir, je crois, que nous avons été jouer au volley. Jeudi soir. Et j'ai toujours 20 ans dans ma tête. Mais mes jambes et mon corps n'ont plus 20 ans. 22. Tout. Toujours est-il qu'en jouant du beach volleyball à 2 contre 2, j'ai plongé un moment, je me suis reçu lourdement. Ça m'était arrivé il y a 5 ans. Je m'étais cassé la clavicule. Pour un jeu de dimanche après-midi sans enjeu. Et là, de la même façon, je me suis reçu lourdement et j'ai dit oh non, c'est pas possible. Pas encore. J'ai rien dit à personne. Un peu parce que j'étais honteux. Et je voulais pas. Si j'avais dit ça à Nancy, elle m'aurait arrangé l'autre côté de la... Non. Mais je me souviens que je ne pouvais pas dormir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Et je me suis dit, ça y est, j'ai dû casser une côte. Donc je ne vais pas pouvoir assurer le culte dimanche. Je ne vais plus pouvoir utiliser mon vélo pendant des mois. Le déménagement, le travail au local, c'est pas brillant. Je me suis épouvanté quelque chose de bien. Et le matin, en fait, après une radio, il y a juste une côte de fissurée. Donc, pour déménager les choses lourdes, j'aurais besoin de votre aide. Tout ça pour dire que nous avons une tendance à tout noircir. À imaginer le pire.
To think of the worst.
Oh, certes, on peut prier le Seigneur.
Instead of thinking of praying, asking the Lord.
Mais on se rappelle de nos défaites précédentes.
We remember our previous defeats.
Il y a quelqu'un qui a dit, celui qui gagne, c'est celui qui se relève le dernier dans un combat. C'est vrai, vous avez vu ces combats de boxe à la télé. On croit qu'il y en a un qui est mort. Mais il arrive à se relever et finalement c'est lui qui va gagner. Les proverbes, le livre des proverbes dit 24-16, à 7 reprises, le juste peut tomber et il se relève. Pas la même chose.
For a righteous man falls 7 times and rises again.
Et c'est vrai que lorsqu'on subit une défaite,
but it's true, when we experience defeat,
que ce soit dans tous les domaines,
it could be in any area of our lives,
on connaît les sentiments désagréables qui accompagnent ça. Les regrets, la honte des fois, l'humiliation des fois, les moqueries, le sentiment d'être faible, d'être inadapté, d'être dégoûté de soi-même. Et c'est vrai que la peur de l'échec devient une chose terrible. On n'ose plus jamais rien. On a été blessé par les autres, donc on reste sur soi-même. On reste dans notre petit monde. On se protège, on a notre petite zone de confort. On bâtit des murs autour de nous. La dernière fois qu'on a partagé nos sentiments profonds, ça nous est revenu, on nous a fait du mal à cause de ça. Donc maintenant, on ne se livre plus.
So now we don't open up at all.
On a des relations superficielles.
And we have very superficial relationships.
Et le Seigneur, ce n'est pas du tout ce qu'il a pour nous. Le Seigneur, il veut nous secouer, faire tomber toutes ces chaînes. Et il dit dans Jean 8:30 que si nous venons à Christ, la parole de, et que nous demeurions dans sa parole, que nous allons être libérés. Et que la vérité, nous allons connaître la vérité nous rend libres en vérité.
Jean 8:32.
Encore une fois, l'ennemi, le diable, veut nous tenir dans le découragement. Dans la peur. Je me souviens d'un sermon par Steve, le mari de Suzy. Où il expliquait qu'en fait, le diable veut que nous vivions dans la maison de la peur. Alors que le Seigneur nous attend dans la maison de l'amour. Il faut faire confiance. Il faut avoir la foi. La foi, elle ne vient pas en se disant « j'y crois, je vais avoir la foi, je vais avoir la foi ». Non, la foi, ce n'est pas la méthode Coué, la foi. La foi, ça vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu.
Faith doesn't come
La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur veut secouer Josué. Il l'encourage. Et nous aussi, nous pouvons être encouragés si nous allons dans la parole de Dieu. Si je suis quelques jours ou sans vraiment prendre du temps avec la parole de Dieu, alors je m'épouvante facilement. Le Seigneur est bon. Amen. Verset 2 doit être terrible pour Achan. Ce que Achan avait fait en désobéissant, prendre du butin, alors que Dieu l'avait interdit, parce que c'était la première victoire qui devait être consacrée à l'Éternel. Maintenant, c'est le Seigneur qui lui dit, servez-vous. Prenez le butin, les dépouilles, le bétail. Si seulement Achan avait pu être un peu patient. S'il avait pu avoir la foi de l'amour de Dieu. Il ne serait pas tombé dans tous ces problèmes qui lui ont coûté la vie et la vie de ses proches. Chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela, parlant de tout ce dont nous avons besoin, vous sera donné en plus par-dessus. Que de fois nous sommes impatients. Je sais que parmi nous, il y a des jeunes célibataires qui ont hâte d'être mariés. Qui décide à un moment ou à un autre de dire, bon, mais Seigneur, l'horloge biologique fait tic-tac. Je sais que tu m'aimes, mais là, il faut que je prenne les choses en main. Ils se lancent des fois dans des choses qui ne sont pas du Seigneur et qui leur apportent beaucoup de malheur. L'impatience. Là aussi, le Seigneur veut nous montrer par cette histoire que nous pouvons lui faire confiance. Mais c'est vers lui qu'il faut nous tourner dans notre impatience. Lorsque le Seigneur dit à Josué qu'il va lui donner la ville d'Aï. J'imagine que Josué a dû se dire, ah d'accord Seigneur. Je sais comment on fait. On va reprendre l'arche de l'Alliance. On va marcher 6 jours, une fois autour de la ville. Et puis alors j'aime bien le coup du 7e tour du 7e jour. J'ai appris la leçon, ça y est, c'est bon Seigneur. Non, cette fois-ci, le Seigneur a un autre plan.
No, this time the Lord has another plan.
Combien de fois aussi nous voyons comment le Seigneur agit dans telle situation?
How many times do we see the Lord move in a certain situation?
Avec telle autre personne?
With some other people.
Et donc on se dit, on doit faire la même chose.
And then we say, well, I should do the same thing.
Ou le Seigneur va faire la même chose.
Or the Lord's going to do the same with me.
Et on enferme le Seigneur dans notre petite boîte. Le Seigneur n'est plus Seigneur.
The Lord can't be Lord.
Il n'est plus souverain, c'est plus lui qui décide.
He's no longer sovereign. He's no longer the one deciding.
N'enfermons pas le Seigneur dans nos méthodes, dans nos plans.
Let's not enclose the Lord into our methods, our plans.
Le Seigneur nous promet la victoire, mais à sa façon.
The Lord promises us victory, but in his way.
N'essayons pas de deviner comment il va le faire. Obéissons-lui pas à pas.
Let's just obey him step by step.
Josué a appris une bonne leçon, verset 3. Il a appris la leçon qu'on ne va pas au combat sans prendre avec soi toutes ses forces. Quelqu'un a dit, le succès, ça ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Mais à ne jamais répéter ses erreurs. Et là, nous avons vu comment, en présumant de la faiblesse des habitants de cette ville, Josué n'avait envoyé qu'une petite portion de ses troupes, un homme sur 200.
And we see that as Joshua presumptuously thought the people in Ai were weak, he sent out just a very small portion of his troops, one in every 200.
Nous devons prendre toutes nos armes. Dans Éphésiens 6, il est question de l'armure du chrétien.
In Ephesians 6, it talks about the weapons of the Christian.
Et lorsque nous nous battons spirituellement,
and when we are fighting spiritually,
il y a un combat spirituel, que vous le vouliez ou non.
There is a spiritual battle, whether we want to admit it or not.
Mais lorsque nous en sommes conscients, nous devons donner toute notre énergie. Comme quand on joue au volleyball. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, donc contre des hommes. Mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a une réalité spirituelle, qu'on le veuille ou non. Si vous priez pour quelque chose, et s'il est adéquat de le faire, demandez à d'autres de prier avec vous. Le Seigneur n'aime pas l'attitude négligente dans les choses spirituelles. C'est pas une impression, c'est un verset, Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang, donc qui ne combat pas jusqu'au bout.
Words,
Et donc on voit ce plan que le Seigneur donne à Josué, une embuscade, une double embuscade.
So we see this battle plan the Lord gives to Joshua, an ambush.
Et l'idée, on va pas lire en détail, c'est de faire croire à l'ennemi que on bat en retraite de nouveau. Et verset 6, ce sont les habitants des Haï qui vont sortir à la poursuite des Juifs en se disant, ils fuient devant nous comme la première fois, alors nous allons les exterminer.
And in verse 6, it tells us that the people of Ai are looking at them and that they feel they are fleeing again and they're going to try to exterminate them.
Et là, on va voir comment le Seigneur va utiliser l'excès de confiance des habitants de cette petite ville. L'excès de confiance, c'est surestimer ses forces et sous-estimer les forces de l'adversaire. Et donc, une double embuscade, il y a un groupe de 30 000 personnes qui va attendre que les qui va faire semblant de fuir en retraite devant la ville.
So there's going to be a double ambush.
Et puis un autre groupe de 5000 hommes en armes sera derrière la ville pour éviter des renforts venant de la ville de Bethel.
So there's going to be a group of men in hiding between Bethel and Ai.
C'est intéressant qu'en fait la stratégie militaire, même aujourd'hui, on étudie les batailles de la Bible. On n'a pas fait mieux en stratégie que ce qui est déjà révélé par Dieu dans sa parole ici. Donc l'idée c'était de monter puis de faire demi-tour. Et lorsque les gens sortiraient de la ville pour aller faire la curée, un groupe mettrait le feu à la ville et les autres feraient demi-tour pour les prendre en tenaille. Et il est dit que le roi de Haï, verset 14, ne savait pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Satan a cru battre Jésus.
Satan thought he had conquered Jesus.
Quelle n'a pas été sa surprise le matin de Pâques?
What surprise he must have experienced on the morning of Easter.
Nous avons vu comment on peut comparer Josué et Jésus, c'est le même mot, en fait, le même nom. C'est le salut de Dieu. Dieu est mon salut. Dieu sauve. Et si je mets ma confiance en Jésus qui sauve, alors Satan est battu. Et c'est ce que l'on voit dans le reste de l'histoire. Ce roi de Haï, qui est un type, une représentation en quelque sorte de l'ennemi de Dieu, Satan. Et là encore une fois, on voit comment, verset 24, Israël achève de tuer tous les habitants de Haï. Un total de 12 000 personnes. Encore une fois, on se dit c'est cruel. C'est sanguinaire. Mais nous avons dit que ces peuples, Il est dit que leur iniquité était arrivée à son comble. Ils vivaient dans l'idolâtrie la plus complète. Ils sacrifiaient leurs enfants à leurs idoles. On a retrouvé des poteries avec des ossements d'enfants dans les murailles de leur ville. Et ces peuplades représentaient une terrible menace pour le peuple de Dieu. Dieu est juste. Il y a des fois où je ne comprends pas certaines de ses actions. Mais qui suis-je pour questionner sa justice? Sa parole nous affirme Dieu est juste. Dieu a le bénéfice d'être en dehors du temps, de voir le futur aussi bien que le passé, aussi bien que le présent. Et il savait que ces hommes ne reviendraient jamais à lui. Et cette sévérité, encore une fois, du peuple de Dieu avec ses ennemis, ça doit pas être un sujet d'indignation devant l'injustice divine. Ça devrait être une leçon très pratique pour moi. Que je ne dois pas vivre dans le compromis. Les ennemis de ma vie spirituelle je ne dois pas les tolérer. Je dois être impitoyable avec les péchés qui me harcèlent. Et donc, le roi de Haï est pendu au bois.
So the king of Ai was hung.
Et puis, il est enterré en dehors de la ville sous un grand tas de pierres.
And then he was buried outside the city under a huge tablet of stone.
A heap of stone. C'est d'ailleurs le sens du mot Haï, c'était un tas de pierres. Lorsqu'ils enlèvent cet homme qui était pendu, ils appliquaient en fait la loi, Deutéronome
21-22.
Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Et Paul nous explique dans Galates 3, 13, que la mort de Christ a été la chose la plus ignoble qu'on puisse imaginer. Parce qu'être attaché à un bois, à une croix, être pendu à une croix, c'était, d'après la loi, un objet de malédiction. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
But Christ repurchased us from the curse of
Redeemed us.
Redeemed us.
La loi, elle nous montre notre péché.
The law shows us our sin.
Tu n'aimeras que ton Dieu.
You will love only your God.
Tu ne convoiteras pas, etc. Tu ne mentiras pas. Tu honoreras ton père, ta mère. Et la loi est malédiction.
So the law is a curse.
Parce qu'elle montre que nous sommes coupables.
Because it shows us that we are guilty.
Lorsque les gens vous disent « J'essaie de vivre les 10 commandements. »
When people tell us they are trying to live by the 10 commandments,
c'est qu'ils ne les ont jamais lus.
They probably have never read them.
Ou n'ont jamais réellement lus. Certes, ils sont des bons citoyens, mais l'exigence de Dieu, c'est la perfection représentée par les 10 commandements. Et nous qui sommes imparfaits, la loi, elle montre cette imperfection et elle nous maudit en quelque sorte. Elle nous dit, tu es coupable. Mais la chose merveilleuse, c'est que Christ a pu nous racheter de la malédiction de la loi. En devenant malédiction pour nous.
By becoming a curse for us.
Lui qui existait dans la gloire de Dieu.
He who existed in the glory of God,
n'a pas regardé le fait de cette égalité avec Dieu. Mais au contraire, il est venu s'humilier sur la croix. Il est venu à la place de la plus grande honte possible pour un homme. Dieu qui devient un objet de malédiction. Par amour pour moi. C'est pas une histoire lointaine. C'est une réalité. Dieu m'aime au point de s'humilier ainsi. Quand je comprends ça, je vis la vie de chrétien non plus par force, par culpabilité. Mais par amour. Par joie. Si Dieu a fait ce plus grand sacrifice pour moi, il va aussi tout me donner avec lui. Et nous voyons comment Josué redonne une dimension spirituelle à cette victoire. Verset 30, il est dit qu'il bâtit un autel à l'Éternel sur le mont Ébal. Et puis, il réunit toute la congrégation, tout le peuple d'Israël. Et là, il va sur cet autel qui doit être bâti sans instrument humain. Il va écrire les tablettes de la loi une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Une autre fois. Sur du plâtre. Et en fait, en faisant ça, il obéit à un commandement qui était donné dans le Deutéronome 27 et 28.
And in doing this, he's obeying a commandment given in Deuteronomy 27 and 28.
Où il était dit que Dieu mettait devant le peuple d'Israël la bénédiction et la malédiction. Et il y avait un endroit près de Sechem.
And there was an area near
D'un côté, il y avait le mont Garizim,
and on one side, there was the Mount Gerizim,
qui est à 900 et quelques mètres.
It's about 900 some meters high.
Et juste de l'autre côté de la vallée, il y a le mont Ebal,
and on the other side of the valley is the Mount Rebal,
un peu plus bas.
A little further down.
Mais l'emplacement géographique est fait de telle sorte qu'on peut entendre, on peut parler d'une montagne à l'autre, et dans la vallée, on peut entendre toute la parole. Et ce qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, après cette grande victoire, Josué consacre son peuple à Dieu. Et si vous avez remarqué, avec la victoire du Brésil la semaine dernière, leur premier réflexe a été de prier. Même tout le staff s'est mis en dans un grand rectangle pour remercier Dieu et lui consacrer cette victoire.
Their first reaction, this Brazil team, was to, as a team, kneel down in a rectangular form and thank God, acknowledge him.
Et c'était quelque chose de penser qu'il y avait une personne sur deux dans le monde qui voyait ces gens prier Dieu. Certains complètement aveuglés, comme nos braves commentateurs français.
Some were totally blinded, like our courageous news commentators.
Se demandaient s'ils cherchaient des trèfles à quatre feuilles.
They were joking that maybe they were looking for four-leaf clovers.
Au lieu de reconnaître que ces hommes se recueillaient devant le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Et pour nous, il est important aussi, lorsque nous avons des victoires spirituelles, de prendre le temps de remercier Dieu. Une des façons, dans le texte, il est dit qu'ils ont lu toute la loi. Nous aussi, dans nos moments de victoire, nous n'oublions pas de continuer à lire la parole de Dieu. Souvent la Bible, ça peut être intimidant. On se dit, j'ai pas le temps de lire toute la Bible. Si on lisait de façon continue, il suffirait de 71 heures pour lire la Bible à vitesse moyenne. Donc si vous preniez du café pour ne pas dormir pendant 3 jours, vous pourriez lire la Bible en 3 jours, en moins de 3 jours. Il y a la parole de Dieu et la louange, il se recueille devant Dieu. Nous avons vu en étudiant le livre du Deutéronome que sur une montagne on prononçait les bénédictions s'il y avait obéissance. Et de l'autre côté, sur le mont Garizim, on prononçait les bénédictions de l'obéissance et sur l'autre les malédictions de la désobéissance. J'avais parlé de leçons pour transformer les défaites en victoires. Il faut d'abord respecter notre ennemi.
First of all, we have to respect our enemy.
Ne pas minimiser la faiblesse de ma chair, de ma vieille nature de pécheur. Vous souvenez, le Seigneur disait à l'exemple classique de Pierre, Jacques et Jean, qui somnolent au lieu de prier avec Christ, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémané.
We remember the classic example of Peter
and John who were sleeping when the Lord asked them to pray with him in the Garden of Gethsemane?
Jésus disait, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Jesus said to them, watch and pray with me so that you don't fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.
Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que je suis convaincu de la faiblesse de notre chair? Depuis longtemps, je suis persuadé que si la tentation nécessaire est devant moi, je tomberai. Ne nous soumets pas à la tentation, nous l'avons chanté aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose d'être convaincu qu'on est faible. J'aime bien ce vieil auteur américain, J. Vernon McGee. Il dit, mon ami, vous et moi, nous ne pouvons pas contrôler la chair. La chair, c'est notre vieille nature de pécheur. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Et il continue en disant, ce qui est tragique, c'est qu'il y a des tas de chrétiens qui essayent de contrôler, de déraciner leur chair avec leur propre force. J'aime bien parce qu'il a toujours des expressions un peu pittoresques. Et il dit, si vous croyez pouvoir faire ça, alors autant apporter une bonbonne de parfum français. Dans la cour de la ferme,
in a farm courtyard,
la verser sur un tas de purin
manure,
en espérant le transformer en bac à sable où les enfants pourraient jouer. Et on imagine l'odeur du parfum français un peu capiteux avec l'odeur du purin. Et la Bible nous dit que nos efforts dans notre propre force pour être acceptable, ça ressemble à ça, ça sent la même odeur. Paul nous dit que nous n'avons aucune obligation pour vivre selon la chair, pour vivre selon cette vieille nature. Elle nous a jamais fait de cadeau, cette vieille nature, elle nous a causé que des ennuis. Donc une des premières leçons, c'est de reconnaître ma faiblesse pour que les défaites se transforment en victoires. Deuxième leçon, c'est de cultiver notre relation avec Jésus. Josué est prêt à passer la nuit, on l'a survolé, verset 9, il passe la nuit avec son peuple. Jésus, c'est le commandeur en chef qui vient jusqu'à nous, qui passe du temps avec nous, si nous sommes prêts à en passer avec lui. Et finalement, nous l'avons déjà mentionné, pas faire de pitié. Pas de coexistence pacifique avec le péché. C'est pas de relâchement, pas de dire oh c'est pas bien grave. Alors Dieu transformera nos Saint-Denis en Yokohama. Notre défaite en victoire. Amen. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité.
Lord, your word is truth.
Merci de nous rappeler que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Garde-nous d'avoir confiance dans nos propres ressources. Mais de mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Donne-nous cette sensibilité par ton esprit pour discerner cette tendance dans nos cœurs, à faire confiance à notre expérience, à nos habiletés, talents, nos capacités naturelles. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces choses que tu nous as données, mais nous voulons qu'elles te soient consacrées. Pour que ce soit toi qui remporte les victoires dans nos vies. Seigneur, ne nous laisse pas succomber à la peur de la défaite. Mène-nous à marcher à ta suite. Te remercions pour ces leçons, Seigneur, et te glorifions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne des victoires cette semaine. Il n'y a pas de petite victoire avec lui. Amen. Amen. C'est important de voir dans ce combat entre Michaël et Satan que Satan n'est pas comparable à Dieu. Il n'est pas, on ne dit pas Satan se battait contre Dieu. Et Michaël lui-même, il est dit dans Jude, n'a pas essayé d'affronter Satan tout seul. Il a dit que le Seigneur te réprime. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous sentons attaqués par Satan, n'allons pas parler avec Satan, envoyons le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit entre nous et Satan.